Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Serge Affelé. Bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. L'article 15 de la Constitution américaine stipule que toute personne vivant sur le territoire des États-Unis a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes. Et qu'à travail égal, l'employé doit recevoir un salaire égal. Néanmoins, ce droit au travail est soumis à des conditions de citoyenneté et de statut d'immigration, excluant ainsi une certaine catégorie d'immigrants, y compris ceux venant d'Afrique. Pour parler des différents statuts d'immigration qui permettent à l'immigrant africain de travailler légalement aux États-Unis, je reçois Maître Latif Odouala Ogo. Il est spécialiste en droit des affaires et des questions d'immigration aux États-Unis. Maître Latif est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et a grandi dans le quartier populaire de Trècheville. En 20 années d'exercice du métier d'avocat aux États-Unis, Maître Latif a réussi à se bâtir une solide réputation au sein de la communauté africaine aux États-Unis et est de loin l'un des avocats d'affaires et d'immigration les plus sollicités de la ville d'Atlanta. Avec lui, je parlerai des différents types de visas de travail aux États-Unis et des procédures à suivre pour acquérir la nationalité américaine quand on est immigrant africain. À tout de suite. Bonjour Maître Latif.
Bonjour Serge.
Merci encore une fois de revenir dans mon podcast. Et cette fois-ci, je vous reçois pour parler de droit du travail et de l'acquisition de la citoyenneté américaine pour les immigrants africains. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps pour parler de votre enfance en Côte d'Ivoire. Vous grandissez dans le quartier populaire de Trècheville. Dites-nous un peu comment s'est passée cette partie de votre vie.
Merci pour l'opportunité. Je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Trècheville. L'une de mes mémoires les plus marquantes sont de moi assis entre les jambes de mon père sur sa Vespa. On allait sur le pont Félix Houphouët-Boigny de Trècheville au plateau. Il devait me déposer à la maternelle, à la Croix-Rouge, avant de joindre l'ambassade des États-Unis, où lui, il était un commis dactylo. Ayant vécu à Trècheville, il y a toujours eu cette tension entre vivre dans les quartiers populaires et avoir eu la chance d'aller à l'école. C'est cette tension-là qui a défini mon adolescence. Quand on n'était pas à l'école, on était dans la rue. Je pense que c'est dans la rue que j'ai commencé à développer mes instincts d'avocat. Parce qu'il fallait très vite apprendre à développer une certaine facilité verbale pour se tirer d'affaires.
Ah oui.
Et en général, quand on développe une réputation, bon, il peut tenir des propos pertinents, il peut soutenir ses positions avec des arguments qui sont convaincants. On te laisse en paix, parce qu'on ne veut pas que tu les embarrasses. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché le fait que je me suis fait taper dessus à plusieurs reprises. Ça, à Trècheville, ça va de soi.
Oui. Alors, mais ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous grandissez dans un quartier populaire, je dirais même un quartier défavorisé, mais vous êtes un élève extrêmement brillant parce que vous faites d'abord le lycée classique d'Abidjan dans les années 78 à 81. Après l'obtention de votre baccalauréat en CRC au lycée classique d'Abidjan, vous décidez d'aller poursuivre vos études universitaires au Nigeria. Pourquoi faire le choix du Nigeria pour vos études universitaires?
Après les études primaires à l'école du Pont, je suis très fier de dire ça, j'ai eu la chance de passer le concours d'entrée en sixième. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse, d'être à l'internat au collège d'orientation de Trècheville. Je sais que le nom a changé, mais qu'ils appellent ça collège moderne maintenant. Pendant qu'on était à l'internat, on avait eu une éducation de base très solide. Ça nous a permis de s'orienter vers le lycée dans une série scientifique et de faire le bac. Après le bac scientifique, j'ai fait une transition à l'université de Lagos pour justement entreprendre des études de physique nucléaire, qui était très intéressant, ça me fascinait, c'est ce que je voulais faire.
Dans les années 80, quand vous vous retrouvez au Nigeria pour faire des études en physique nucléaire, vous êtes dans un pays qui est sous un régime militaire, qui est celui du colonel Sami Abacha. Dites-moi un peu
Oui.
comment la vie d'étudiant dans un environnement pareil vous a forgé.
Alors, les mémoires me viennent encore avec les protestations, avec les marches dans la rue, avec les rassemblements d'étudiants, avec les militaires sur le campus. C'était excitant, on avait peur, mais ça a développé en nous un certain sens de citoyenneté parce qu'on aimait notre pays. Il faut préciser qu'avant Abacha, c'était d'abord Babangida, qui avait une dictature militaire, et puis après, ça a été suivi par le régime d'Abacha. Oui, c'est là, en plus, que j'ai commencé à réfléchir au fondement de nos nations en Afrique, que je commençais à m'intéresser à ce que pouvait être un état de droit, où le droit de l'individu était respecté, où on lui accordait une certaine dignité, où on ne risquait pas de se faire frapper par un militaire tout juste parce que c'était un militaire. Donc, déjà, ces questions me préoccupaient au Nigeria avant de venir aux États-Unis.
Vous quittez le Nigeria avec une maîtrise en physique nucléaire pour les États-Unis. Aux États-Unis, vous vous inscrivez dans un programme doctoral pour poursuivre des études en physique nucléaire. Comment s'est passée, cette période de votre vie?
J'étais toujours attaché à la physique nucléaire, c'était fascinant. C'était à l'époque où on pensait qu'éventuellement, dans les pays d'Afrique, on pouvait développer et se doter d'une capacité nucléaire pour les énergies, bien sûr, mais aussi comme armement stratégique. Donc, ça m'intéressait, mais finalement, mes préoccupations pour le fondement des nations africaines, j'étais fasciné par l'état de droit ici. C'était un peu différent à l'époque, il y a une trentaine d'années maintenant. Pendant les élections de Clinton, le pays était mobilisé pour un changement et il y avait toute une énergie qui m'avait inspiré. Et c'est là que j'ai décidé que ce que je pouvais faire dans un pays comme les États-Unis, c'est essayer de comprendre justement pourquoi le pays fonctionne. C'est là que l'école de droit, a commencé à m'intéresser.
Alors donc du coup, vous décidez d'abandonner vos études en physique nucléaire et vous inscrivez en 96 à la faculté de droit à Brooklyn Law School. Vous y passez 4 ans pour obtenir votre doctorat et ensuite vous rentrez maintenant dans la phase active de votre carrière. Donc vous faites les 8 premières années de votre carrière d'avocat à travailler pour plusieurs cabinets. Et en 2008, vous décidez de vous lancer à votre propre compte et de fonder votre propre cabinet. Pourquoi avoir décidé de vous installer à votre propre compte au lieu de rester avec des cabinets de renom?
Il faut dire que ces années entre 2000 et 2008, ce sont des années où j'apprenais à être avocat dans un milieu où le professionnalisme régnait, avec des gens qui étaient très intelligents et qui étaient au top de la profession. Ça, il n'y a pas de doute. D'abord, il faut avouer que bon, c'est un échange qu'il faut faire. Parce qu'à l'époque, déjà, j'avais une famille, j'avais deux filles. On était très bien payé, enfin, je pouvais pas imaginer quand j'ai reçu mon premier salaire que j'allais. Oui, c'était inimaginable. Mais par contre, on était au travail tout le temps. C'était justement c'était un système de traître. On vous fait travailler et pour chaque heure que vous travaillez, on facture les clients par heure. Ce qui fait que le plus que vous travaillez, le plus le cabinet gagne. Mais c'était bon, c'était un échange qui valait la peine pour justement avoir eu le privilège d'apprendre à être avocat. Mais éventuellement, quand mes filles grandissaient, c'était plus avantageux. Il faut admettre aussi que bon, il y a un plafond de verre qui s'impose déjà à partir de 8 ans, où le choix doit être fait au niveau des cabinets qui devient associé et qui reste avocat. Donc, sans nécessairement me plaindre de l'opportunité que j'ai eue, je pense qu'en 2008, la décision a été faite de nous maintenir comme avocats et de ne pas nous promouvoir au niveau d'associés. C'est là que j'ai dit, bon, merci de tout ce que vous m'avez appris. J'ai toujours eu le désir de m'installer à mon compte de toute façon. Donc, c'était le moment de le faire. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2008. C'est là que, avec un autre avocat américain noir, on s'entendait très bien, on travaillait ensemble jusqu'à présent. Et ça a été un très bon choix pour moi.
Donc à présent, vous êtes installé à votre propre compte avec un partenaire et vous êtes spécialiste en droit d'affaires, en droit civique et en droit d'immigration. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est le droit de travail et d'acquisition de la citoyenneté américaine, pouvez-vous nous parler un peu des différents statuts d'immigration qui permettent aux immigrants africains de pouvoir travailler légalement aux États-Unis?
En général, aux États-Unis, on ne peut pas travailler sans autorisation. Donc, si l'on travaille sans autorisation, il y a deux personnes qui peuvent être sujets à des troubles. La personne qui travaille et la personne qui vous embauche. Donc, il faut obtenir une autorisation avant de travailler. L'autorisation elle-même découle de votre statut. En général, la carte verte, la green card, on peut l'obtenir par plusieurs moyens. D'abord, en dehors du pays. L'exemple le plus commun, c'est gagner la loterie du visa. Si vous gagnez la loterie du visa, vous venez avec un visa d'immigrant et à l'entrée, on vous reconnaît déjà comme résident permanent. On peut venir en tant qu'immigrant par une demande qui a été déposée soit par un parent ou une parente, le père ou la mère d'un jeune enfant qui n'a pas encore l'âge de 21 ans, ou alors l'époux d'une personne ou l'épouse d'une personne qui a soit un statut de résident permanent ou alors un statut de citoyen. Ça, c'est encore une manière de venir aux États-Unis en tant qu'immigrant. Cela sous-entend qu'éventuellement, vous aurez votre green card, ce qui va vous permettre de travailler. Il y a une demande de visa qui est basé sur les moyens financiers. Si on a les moyens pour investir dans une entreprise et que l'entreprise peut créer des emplois, au minimum 10 employés, mais le problème c'est que le capital d'investissement était de l'ordre de 1 million, ce qui était déjà beaucoup. En 2019, l'administration de Trump a augmenté ça à 1,8 million.
Aux alentours de 1 milliard de francs CFA.
Voilà. Donc, c'est pas vraiment pratique. Mais pour ceux qui ont les moyens, c'est une opportunité non seulement de venir aux États-Unis, mais de venir avec toute sa famille aux États-Unis. Donc, et
Ah.
puis investir dans une entreprise qui va continuer, bien sûr, à employer des gens, mais à vous faire aussi de l'argent.
OK.
Donc, c'est un moyen d'investissement. Et il y a un peu de flexibilité si l'on décide d'investir dans la région où le taux d'emploi est relativement bas. Là, le capital d'investissement requis est de l'ordre de 1 million plutôt que 1,8 million. On peut, si on a les moyens, fédérer les investissements. Donc, vous joignez un groupe d'investisseurs, vous apportez votre million, ils apportent 20 millions, et vous
Oui.
pouvez ensemble faire un projet de 20 millions.
OK.
Bon, ça, ce sont des projets qui sont faisables et on peut joindre ces fédérations-là d'investissement. Ça, c'est une autre possibilité. Bon,
OK.
c'est tout ce que je vais dire sur ça, sauf s'il y a quelqu'un qui a des moyens. Alors là, on peut prendre tout le temps pour réfléchir dessus.
OK.
On peut bien sûr obtenir un visa d'étudiant, pourvu qu'on soit admis dans une université américaine et qu'on puisse démontrer qu'on aura les moyens ou alors l'accès aux ressources financières pour non seulement payer les frais d'instruction, mais aussi pour subvenir aux besoins quotidiens de logement, de nourriture et tout ça. Donc, si on obtient une admission, on peut venir dans une université. En général, il y a des restrictions sur ce qu'on peut faire du point de vue du travail. Mais éventuellement, si on peut démontrer qu'on a besoin de travailler pour des raisons quelconques, on peut obtenir une exception qui vous permet de travailler à temps partiel pendant que vous suivez vos cours à l'université.
À propos de visa étudiant, l'autorisation de pouvoir travailler, elle se fait seulement sur le campus universitaire ou elle peut être octroyée pour un individu qui aimerait travailler hors du campus? Parce que à ce niveau, je crois bien que il semble avoir une petite confusion.
Pour les études de la première année à la licence, il y a beaucoup plus de restrictions. Donc, en général, ça se passe au sein de l'université, sauf si l'université vous accorde une exception spéciale, ce qui est très rare. Quand on fait des études après la licence, des études de maîtrise, on a beaucoup. Avant ça, d'abord, il y a ce qu'on appelle le OPT, qui vous permet de faire des stages et d'avoir de l'expérience. Donc, justement, il faut aller en dehors de l'université pour avoir de l'expérience professionnelle. Selon les études que vous faites, dans les études dites scientifiques, on vous permet d'avoir des OPT un peu plus longs, peut-être de 2 ans. Vous pouvez travailler à temps plein en dehors de l'université. Et si vous retournez à l'université pour faire une maîtrise, et après ça encore, vous pouvez faire un OPT d'une période de 2 ans encore. Donc, le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens de payer les frais d'université chaque année, ce qui, pour toute personne qui a fait des études ici, se rend compte que ça coûte cher. Ce qui, dans mon expérience, se passe souvent, c'est que les élèves viennent, ils arrivent à s'inscrire dans une université, ils ont les moyens de payer pour un semestre, et puis après, la source de leurs ressources financières tarissent et ils n'ont plus les moyens de continuer. Ça pose des problèmes.
Et dans ce cas-là, quelles sont les options qui se présentent à l'étudiant qui se retrouve dans une situation où il n'a plus les ressources financières pour couvrir ses frais de scolarité?
D'abord, ça dépend. Si c'est une situation temporaire, la loi prévoit que, bon, même après que l'étudiant se trouve dans une situation irrégulière pour manque de paiement, si c'est tout juste pour une période d'un semestre, il peut faire une demande de restitution s'il arrive à payer les frais après ça. Donc, ce que les élèves font souvent, c'est s'ils décident de rester dans la même école et que, bon, ils prennent un semestre et tout, et ils ont les moyens après un semestre pour continuer à payer, ils peuvent faire une demande de restitution de leur statut d'étudiant. Ou alors, ils peuvent changer d'école. Il y a certaines écoles qui sont relativement moins chères. Il y a des écoles qui coûtent 50, 60 000 dollars l'année. Il y en a qui coûtent 10 000 dollars l'année. Donc, déjà, il va falloir faire une demande parce que le statut d'étudiant est en général basé sur l'école qui vous a donné l'admission initialement. Mais vous pouvez, si vous changez d'école, faire une demande, renouveler et obtenir le même statut, mais pour une autre école où vous allez payer moins cher. Ça, c'est encore une possibilité. Finalement, il y a la possibilité de faire une demande pour allonger son statut. Mais ça sous-entend qu'on a les moyens soit de payer les mêmes frais, soit de payer les frais qui sont relativement moins chers dans une autre école.
Alors, dites-moi, l'étudiant qui a fait ses études aux États-Unis, qui a payé tous ses frais de scolarité avec un visa étudiant, à la fin de son cursus, il obtient un diplôme. Que devient son statut d'étudiant?
Le statut d'étudiant, c'est pour faire les études. Et peut-être aussi, associé aux études, obtenir une expérience dans une entreprise, une expérience professionnelle. Donc, ça, c'est le OPT dont je parlais. Mais après ça, on ne peut pas rester et travailler avec un statut d'étudiant. Donc, il faut soit se faire recruter par une agence qui va faire une demande pour vous. Mais ça prend du temps. Les nombres de demandes qui sont approuvées sont très limités. Donc, ce n'est pas une option très pratique. À moins que vous n'ayez fait des études supérieures avancées, comme des études de doctorat, vous pouvez dire, bon, je suis professionnel, je suis docteur, je peux avoir mon cabinet, je vais faire une demande en mon nom parce que j'ai les moyens d'établir mon cabinet. Là encore, il y a une possibilité. Mais sinon, en général, après les études, il faut soit changer son statut, on ne peut pas rester travailler avec un statut d'étudiant.
Donc, on a parlé de statut étudiant, on a parlé de personnes détenteurs de cartes vertes. Pouvez-vous nous parler un petit peu du statut d'asile politique aux États-Unis et comment l'obtient-on?
L'asile politique, j'aime définir ça plutôt comme un mirage. L'asile politique ressort de la notion de refuge. Et mon pays est en guerre, bon, il y a une situation où je serai persécuté parce que j'ai une position politique qui n'est pas en conformité avec la politique du pouvoir et que je me suis exprimé un peu trop et que je suis en danger. Donc, je viens aux États-Unis pour me réfugier. Donc, accordez-moi l'asile politique. En principe, ça devait s'obtenir si la personne qui fait la demande peut prouver de manière crédible que cette personne-là a une peur d'être persécutée. Quels sont les genres de preuves qui seront acceptées? C'est à ce stade-là, surtout que le problème se pose. Bon, si tu es quelqu'un de très visible, qui est dans l'opposition et qu'il y a des documents, des articles dans les journaux et tout ça qui disent, bon, voilà. C'est plus facile. Mais en général, ce qu'on a, ce sont les demandes d'asile qui proviennent des pays où le gouvernement des États-Unis, même la CIA, a des dossiers sur la stabilité politique dans ce pays-là. Les pays comme le Sénégal sont considérés stables. Les pays comme la Côte d'Ivoire, la plupart des pays africains sont considérés stables. Donc, ça pose un grand problème de preuve pour ceux qui font la demande d'asile. Il faut aussi préciser que c'est pas tout juste la politique, mais c'est aussi la religion ou alors les pays qui sont infestés par des gangs. Si l'on a cette peur-là crédible, que l'on pourrait être assujetti à des violences ou que l'on a été déjà assujetti à des violences par des gangs et que le gouvernement en place n'est pas en mesure de prévenir contre ces violences-là, on peut avoir droit à l'asile. Il y a aussi certaines pratiques comme la mutilation génitale. Ça peut donner le droit à l'asile politique. En pratique, il y a très peu de demandes qui sont approuvées. Par contre, il y a un avantage, c'est quand on fait une demande. Et il faut faire une demande dans un délai de 1 an après l'arrivée aux États-Unis, sinon la demande n'est plus acceptable. Donc, dès qu'on fait une demande, on peut avoir droit à la carte de travail. Et puisque le gouvernement a beaucoup de demandes et qui sont pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que on
C'est
peut,
pas traité de façon rapide.
voilà, justement, de façon rapide, on peut avoir droit à la carte de travail pendant des années avant que votre dossier ne parvienne à être décidé. Ce que je dis aux gens, utilise ce temps pour trouver une autre solution temporaire. Parce que malheureusement, ce sera malheureux de passer ces années-là, renouveler les cartes de travail, et dès que ton dossier est présenté à un juge, se dit que bon, ça, c'est pas un dossier viable. Alors là, puisqu'on n'a pas préparé d'alternative, on se retrouve dans le pétrin.
Quels sont les différents moyens par lesquels l'on peut acquérir la nationalité américaine?
La nationalité américaine s'obtient, sauf quelques exceptions. Par exemple, quand on joint l'armée, on peut avoir une demande de naturalisation qui est expédiée. Mais sinon, en général, ce sont les mêmes procédures dont on a parlé pour obtenir la green card. Et 5 ans après la green card, on est éligible pour faire une demande de naturalisation. C'est là qu'on devient citoyen.
Et par le mariage?
Quand on est ici. Et le mariage est probablement la manière la plus sûre, surtout si on vient ici avec un visa de visite ou alors un visa pour les affaires. D'abord, c'est le moment de faire la distinction qui cause parfois des confusions. Il y a une différence entre un visa qui s'obtient à l'extérieur, soit à l'ambassade, soit à un consulat, et puis un séjour qui s'obtient ici à l'aéroport. Donc, quand vous avez un visa, vous venez en tant que visiteur, vous arrivez à l'aéroport, on vous admet, et ça veut dire que vous êtes admis, vous avez une date de séjour, et ça n'a rien à voir avec votre visa. Donc, si vous avez un séjour, en général, on vous donne un séjour de 6 mois. On peut donner peu, mais en général, ils ne donnent pas plus que 6 mois. On vous donne un séjour de 6 mois, vous êtes là en tant que visiteur, vous avez un statut légal. Si après ces 6 mois, vous n'avez pas fait une demande pour allonger le séjour, vous vous trouvez en situation d'irrégularité. Ça veut dire que vous êtes là maintenant en contravention de la loi et des règlements de l'immigration. Donc, la seule manière peut-être de rectifier ça, c'est de se marier à un citoyen ou une citoyenne qui va maintenant faire une demande pour vous et que dès que la demande sera approuvée, vous serez éligible pour obtenir une green card en tant que l'époux ou l'épouse d'un citoyen ou d'une citoyenne.
Donc, si je comprends bien, un immigrant africain ou un immigrant quelconque qui vient aux États-Unis et qui se retrouve en situation d'irrégularité peut avoir une green card ou changer son statut par le mariage.
Justement, par le mariage. Il n'y a que le mariage qui vous permet de faire ça. Puis ça, par exemple, il y a un problème souvent qui se passe. On a une mère qui vient aux États-Unis, elle vient en visite avec ses deux enfants. Les enfants sont jeunes. D'abord, elle a un statut de visiteuse. Et puis éventuellement, elle se marie à quelqu'un. Elle a un statut de résidente permanente. Donc, si pour une raison quelconque, avant que les enfants n'atteignent l'âge de 21 ans, si rien n'est fait pour les enfants, il faut se rendre compte que dès que la mère, après les 6 mois, la mère et les enfants ont déjà un statut irrégulier après 6 mois. Quand les enfants sont jeunes, les enfants peuvent aller à l'école. En général, ce n'est pas un problème au niveau de l'école secondaire. Le problème se pose quand il est temps pour les enfants d'aller à l'université. C'est là maintenant qu'on demande un statut de F1 que les enfants n'ont pas. Les enfants sont dans l'irrégularité. Les enfants ne peuvent pas se marier parce qu'en général, ils sont trop jeunes. Donc ça crée un problème. J'ai un dossier présentement qui me fend le cœur parce que une fille très, très intelligente qui a une très bonne moyenne, le père a un statut de résident permanent. Bon, il a fait une demande, mais avant que la demande ne soit approuvée pour la fille, il faut que le père devienne citoyen d'abord. Ça va prendre encore 2, peut-être 3 ans. Entre-temps, la fille a fini, elle a fini ses études secondaires. Elle me demande, on m'envoie des lettres, on m'envoie des bourses et tout ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à l'université? Donc, bon, je lui conseille que faut voir au moins ces 2 années-là comme une opportunité pour embellir ton dossier, de sorte que même quand tu décides d'aller à l'université, tu auras beaucoup plus d'opportunités. Donc, je dis tout ça pour impulser les parents à se rendre compte du statut des enfants quand ils décident de venir et de rester. Et s'ils décident de faire un mariage, il faut au moins avoir une stratégie d'adresser les implications pour les enfants.
Pour les enfants. Que se passe-t-il pour les immigrants africains qui sont en situation irrégulière et qui ont des enfants avec des Américains? Que dit la loi sur le statut de ces enfants-là?
Malgré ce que le président Trump veut nous faire croire, une personne qui est née ici est américaine, quel que soit le statut de ses parents. Si ses enfants sont nés ici, il n'y a pas de problème. Ses enfants peuvent obtenir un certificat de naissance qui établit leur citoyenneté américaine. C'est aussi simple que ça.
Que dit la loi américaine sur la double nationalité pour les immigrants africains qui aimeraient conserver la nationalité de leur pays d'origine et se retrouvent face à la possibilité de pouvoir acquérir la nationalité américaine? Ces immigrants africains doivent-ils abandonner leur citoyenneté d'origine et acquérir la citoyenneté américaine ou possèdent la possibilité de garder les deux nationalités?
Je vais décrire la position de la loi américaine comme si la loi américaine ignorait les autres nationalités. Quand on devient américain, les États-Unis vous reconnaissent comme américain et puis c'est tout. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que si tu étais ivoirien ou nigérien avant que tu ne deviennes américain, ils ne reconnaissent que votre nationalité américaine. Ils ne s'intéressent pas à l'autre nationalité. Donc, la double nationalité est une notion qui est régie par les lois de la deuxième nationalité. Si votre pays vous accorde double nationalité, bien vous pouvez l'avoir. Les États-Unis ne s'en mêlent pas. Si par contre votre pays insiste que pour devenir américain, vous devez rejeter votre nationalité, il y a certains pays d'Afrique qui font ça pour des raisons politiques. Alors, vous ne pouvez pas maintenir cette double nationalité, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas parce que les États-Unis vous les interdisent, c'est parce que le pays d'origine considère votre citoyenneté américaine comme un rejet de votre nationalité originaire.
Ok, très bien, merci. Alors, dernière question pour terminer. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe quand on obtient la nationalité par le mariage et quelques mois ou quelques années plus tard, l'on divorce?
En général, dès qu'on est citoyen, on devient citoyen. Le fait d'obtenir un divorce, peut-être même un jour avant sa nationalité, ne devait pas poser de problème.
Après, ça m'attendait, vous voulez dire?
Oui, mais c'est avant la nationalité que les agents de l'immigration qui ont votre dossier vont faire une analyse et décider si votre mariage est réel. S'ils ont un doute, c'est à ce stade-là qu'ils vont soulever le problème. Mais dès qu'ils vous ont accordé la nationalité, c'est très difficile pour eux de questionner de manière rétroactive le statut de votre mariage. Donc, normalement, en théorie, ça ne devait pas poser de problème. Je peux imaginer une situation où peut-être quelqu'un avec lequel vous étiez marié, alors appelle l'immigration et lui dit, oh, voilà, notre mariage était faux. Alors là, il y a une preuve qui peut inciter l'agent de l'immigration à questionner la base de votre citoyenneté. Mais ça, c'est une éventualité très rare. Sinon, quand on est citoyen, sauf quelques, c'est pas moi, il y a certaines conduites de trahison qui peuvent amener à l'abolition de votre nationalité. Mais sinon, en général, on est pratiquement sauf quand on a la nationalité.
Maître Latif, je vous remercie.
Merci, Serge.
Merci d'avoir suivi notre mission d'aujourd'hui sur le droit au travail et la procédure d'acquisition de la nationalité américaine. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un message via notre site internet au www.africain-amérique.org ou sur notre compte Facebook à Les Africains d'Amérique-officiel. Vous pouvez aussi contacter directement Maître Latif par le biais de son cabinet juridique au 404 549 67 72. Bon début de semaine à tous et à très bientôt.